en Midi-Toulousain, en Comminges, en Lauragais et Nord-Ariège.
Radio Occitanie, l'émotion du pays.
L'émotion du pays.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Monsieur Arnaud Stern. Bonjour Monsieur Arnaud Stern.
Bonjour.
Et ainsi que Dominique Rosis. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Et je, avant de les retrouver, je vais juste faire une petite annonce pour une animation lecture à ombre blanche, enfin de présentation de livres, du livre de Nicole Zimmermann à la librairie Ombre Blanche le mercredi 20 avril à 18h. Son livre s'intitule « Quai des oranges ». Et la librairie, je vous rappelle l'adresse de la librairie Ombre Blanche, 50 rue Gambetta. Vous pouvez appeler au 05 34 45 53 33. Et donc c'est à partir de 18h, c'est sans réservation et c'est bien sûr ouvert à tous et gratuit. Donc elle vous présentera son premier roman, Quai des Oranges. Et vous savez sûrement que Nicole Zimmermann est journaliste à France 3 Sud. Et donc voilà, elle se lance dans l'écriture avec ce premier roman très intéressant. Et je signale entre parenthèses que je la recevrai au mois de mai, la date n'étant pas encore fixée, mais je la recevrai avec plaisir pour qu'elle nous parle de son livre. Voilà, alors je vous présente le livre aujourd'hui de Arnaud Stern qui s'intitule « Heureux comme un enfant qui peint » aux éditions du Rocher, que vous pouvez trouver donc depuis le début de l'année dans toutes les librairies, dans tous les magasins qui vendent des livres. Alors je voulais signaler que ce livre est préfacé par Albert Jacquard, et qu'il est illustré de nombreuses photos en noir et blanc du célèbre photographe Peter Lindbergh, des photos d'enfants qui peignent donc dans l'atelier de M. Arnaud Stern dont on va parler, et qui sont de vraiment superbes photos d'enfants qui sont épanouis, qui sont vraiment mignons à croquer, et dont on voit tous les travaux sur des grands espaces, et on voit aussi également M. Arnaud Stern avec les enfants. Et voilà, donc un très beau livre, heureux comme un enfant qui peint, aux éditions du Rocher. Donc maintenant, je vais laisser la parole un petit peu à Monsieur Stern, puisque bon, c'est le personnage principal de mon émission. Donc, c'est son 14e livre, hein. Il faut quand même le signaler que Monsieur Stern écrit beaucoup. Et donc, il va nous parler donc de son parcours un petit peu.
De ce livre, si vous voulez.
De ce livre, oui, d'accord.
Il le raconte un peu, parce que
il est en deux parties, hein. J'ai oublié
peut-être de le dire. Oui, on
peut dire
qu'il est en deux parties, oui. Mm-hmm. Une première partie qui montre le clos-lieu, qui montre ce jeu, le jeu de peindre dans le clos-lieu. Pour préciser que j'oppose le jeu de peindre à l'art de peindre, pour bien indiquer qu'il ne s'agit pas de la création d'œuvres, comme on a l'habitude de le considérer, que l'enfant n'est pas un artiste en miniature, qui vient faire de belles choses que d'autres gens vont regarder, admirer, mais que l'enfant joue, tout simplement, sans but à atteindre, sans attendre un retour, sans attendre un écho, simplement pour le plaisir de jouer. Et ce lieu que j'ai créé, qui s'appelle donc le clos-lieu, est un lieu où l'on joue, et où l'on joue avec d'autres, parmi d'autres, et ce ne sont pas seulement des enfants, comme on les conçoit généralement, pas des enfants de l'âge scolaire, mais ce sont des personnes de tous âges. Les plus petits ont environ 3 ans, et les plus grands enfants ont environ 70 ans.
Oui.
Et pour moi, c'est très important que dans ce même lieu, dans ce même groupe, se trouvent des personnes diverses, et que ce ne soit pas comme dans une classe, qu'on ne mette pas les gens en catégorie, puisqu'on élève les enfants dans des classes, ce qui fait qu'ils sont toujours groupés avec les semblables, avec des gens comparables, ce qui crée d'abord la comparaison, le jugement de valeur et surtout la compétition. Et dans le clos-lieu, on réagit contre ce conditionnement et chacun découvre ce qu'il est vraiment, mais il le découvre parmi les autres, pas au détriment des autres.
Et pour lui-même, c'est pas pour quelqu'un voilà, en particulier, exactement. C'est pour lui-même.
Il trouve du plaisir, son plaisir à s'affirmer. À et ça se fait bien sûr dans des conditions qui ont été créées pour ça. Le Clos-Lieu, donc, comme son nom l'indique, est un lieu qui est coupé du quotidien. Je tiens beaucoup à le préciser. Quand on entre dans ce lieu, ce qui frappe, c'est sa clôture. C'est un lieu qui n'a pas d'ouverture sur l'extérieur, ce qui fait que ce lieu n'est pas tributaire de tout ce qui est variable, tout ce qui est changeant dans le monde quotidien. Il est toujours égal à lui-même. Quel que soit le moment où l'on vient dans ce lieu, on le trouve toujours tel qu'on l'a trouvé la première fois. Je tiens beaucoup à cette permanence qui, bien sûr, est importante pour le développement de la personne. Donc, ce lieu est clos.
Oui, dans le livre, pardon, que vous avez, pour gagner de la place, que les ouvertures ont été obstruées, mais vous avez mis des feuilles pour qu'il y ait plus de possibilités de peindre pour les enfants.
Je n'ai pas conçu un lieu en me disant il faut qu'il soit fermé de telle sorte qu'il échappe à ce qui est changeant et que ce soit un lieu de concentration. Mais je suis parti de données pratiques. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois des enfants, c'était dans un orphelinat, juste après la guerre. C'était donc des orphelins de guerre, des enfants qui avaient échappé à la déportation, dont les parents avaient été fusillés ou déportés. Et ces enfants avaient été recueillis et il fallait les occuper. Ils avaient donc des classes et puis entre les classes et les repas et le coucher, il fallait les occuper. Et j'avais été chargé donc de ça. Et j'ai trouvé, il n'y avait pas grand chose à ce moment-là. Il n'y avait pas comme aujourd'hui toutes sortes de moyens. La France était pauvre, était pillée et il restait très peu de choses. Donc j'ai utilisé des crayons d'abord et puis quand c'était possible de la peinture et on a peint. Et il fallait que j'accueille beaucoup d'enfants dans un lieu réduit. On a commencé par dessiner, peindre sur une table, sur des petites feuilles, avec des bancs, sur lesquels on était assis. Et puis, un enfant voulait faire un dessin plus grand que ce que la table permettait de faire. Mm-hmm. Je me dis, on va le mettre au mur. Et donc, un premier enfant a peint avec la feuille sur le mur. Puis un deuxième a dit, moi aussi, je vais peindre sur le mur. Et puis finalement, tous les enfants ont peint sur le mur. On a sorti la table et les bancs, et puis tout le monde a peint sur les murs. Et comme il fallait gagner de la place, j'ai aussi mis un panneau devant la fenêtre et puis devant la deuxième fenêtre et puis comme ça est né le Clos-Lieu pour des raisons purement pratiques.
Purement pratiques.
Et puis il y avait donc l'autre problème, c'était avec quoi peindre, avec la peinture, avec des pinceaux. Au début, ils étaient posés sur la table et comme on a sorti la table, il fallait trouver un endroit. C'est là que j'ai inventé un instrument qui s'appelle la table palette. Qui est donc le centre de l'espace. Mm-hmm. C'est là que tout se trouve, c'est-à-dire les godets de peinture, les pinceaux, et chacun prend le pinceau, le trempe, l'emporte à sa feuille et le rapporte ensuite sur la table. Et ça, c'est demeuré depuis ce moment-là, c'est toujours là aujourd'hui.
C'est une table palette qui contient 18 couleurs.
Il y a 18 couleurs, oui,
c'est ça. Et après, avec lesquelles, après, on peut faire autant de...
Et au-delà, on peut faire toutes sortes de nuances, bien sûr, chacun selon ses besoins. Mais lorsqu'on entre dans ce lieu, évidemment, ce qui frappe, c'est ça. C'est donc, ce sont ces murs, d'abord, et puis au centre, l'instrument. Il n'y a rien d'autre. Donc, on ne peut rien envisager d'autre dans ce lieu. Et on s'y concentre. On se concentre sur ce jeu. On n'est jamais distrait par autre chose. D'accord. Et comme chacun sait que rien ne sort jamais de ce lieu, eh bien, on vit quelque chose dans le moment même où ça se produit.
Oui, les dessins des enfants ne sortent pas du Clos-Lieu. Vous les conservez dans des cartons.
Voilà.
Et ils ne sont pas montrés ni aux parents, ni
à personne.
C'est à eux. Ils ne les prennent pas quand ils quittent, par exemple, si un jour ils ne viennent plus au Clos-Lieu,
c'est définitif, c'est fixé comme ça, c'est convenu à l'avance.
Vous devez avoir beaucoup de dessins d'enfants depuis 50 années, ça fait
une grosse masse de documents, oui, bien sûr. Mais c'est comme ça, ça fait partie de mon rôle de veiller, de conserver cette trace de chacun. C'est vraiment le conservatoire du plaisir de chacun. Il faut dire que l'enfant arrive les mains vides. Dans ce lieu, il n'apporte rien de l'extérieur, et puis il ressort les mains vides.
Mais c'est important. En ayant sûrement vécu quelque chose de très...
On a vécu quelque chose de très important.
Il est enrichi de quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas visuel, mais qui est intérieur.
C'est-à-dire qu'il y a deux choses, il faut bien les préciser. l'enfant fait une très importante expérience dans ce jeu. Il se révèle, il vit sa personnalité, il se vit tel qu'il est vraiment, sans restriction, parmi les autres. Et donc, il découvre les autres, non pas comme des concurrents, comme ailleurs, mais comme des compagnons d'aventure. Et ça, c'est important. Et ça, c'est une attitude qui se reporte sur la vie quotidienne. Ça, c'est valable pour tous les actes. C'est une transformation de la mentalité. Il faut dire que les enfants qui sont toujours en compétition, toujours en train d'attendre un résultat et de supplanter les autres, d'être le meilleur, donc meilleur que d'autres, dans le clos-lieu, ils apprennent qu'on peut être soi-même sans avoir à se comparer, sans être meilleur qu'un autre. On est simplement parmi les autres. Ça, c'est une expérience, évidemment, qui a de grandes répercussions sur la mentalité, sur la manière d'être. Et puis, il y a autre chose. Dans ces conditions de quiétude et de concentration, on est capable de laisser se produire une trace qui n'a pas de précédent, qui ne peut se produire que dans ces conditions. Et cette trace, évidemment, elle est liée à ce lieu. C'est comme une langue maternelle de ce lieu. Une langue maternelle qui est commune à tous ceux qui viennent là, qui est vécue par tous et qui ne peut être transportée nulle part.
C'est-à-dire que vous l'opposez à ce que, par exemple, à l'école, ou ce que les enfants peuvent faire chez eux avec leurs parents ou avec leurs éducateurs ou à l'école avec des enseignants. Vous l'opposez à ce que l'apprentissage de l'enfant peut...
Oui, à tout ce qui communément s'appelle le dessin d'enfant, le dessin enfantin ou l'art enfantin, il y a toutes sortes de vocables, mais ils tendent tous à dire que c'est propre à l'enfance. Et ça, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'affirmations qui existent maintenant depuis un siècle à peu près et qui sont toutes erronées. Par exemple, on parle du dessin d'enfant. Il faut absolument supprimer cette appellation qui n'a aucun sens. Ça voudrait dire que c'est propre à l'enfance, mais ce n'est pas vrai, puisque dans le clos-lieu, des personnes de 50 ans ou de 70 ans jouent exactement comme des enfants plus petits, et ce qu'ils vivent est la même chose, et leur émission est de la même origine. Et il y a des gens qui ont prétendu que les enfants ont de merveilleuses capacité d'imagination, de créativité, de fantaisie, ce qui n'est pas du tout vrai, et qu'ils perdent ces qualités en devenant plus sages. Mais ce n'est pas vrai du tout. Le clos-lieu a démontré que ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas d'âge critique, ce n'est pas propre à une période de la vie, mais que ça accompagne la personne durant toute son existence.
Oui, parce que qui n'a pas entendu un parent ou un enseignant dire à un enfant, tiens, qu'est-ce que tu as représenté sur ton dessin ? Et bon, l'enfant est obligé de donner une réponse adaptée. Et bon, ça enlève beaucoup de spontanéité, finalement.
Ça déprave complètement la trace de l'enfant. Ça en fait un moyen de communication et de dépendance. On considère que ce que fait l'enfant est un dessin adressé à d'autres, qui a la possibilité d'un récepteur. Que quelqu'un peut réagir à cette trace. Mais dès l'instant que c'est comme ça, ce n'est plus un jeu.
Oui, il le fait pour quelqu'un d'autre, il ne le fait plus pour lui-même. En fait.
Voilà, exactement.
Il ne profite pas de ce moment.
On le dépossède de son jeu. Mais c'est une habitude, c'est presque un automatisme. Lorsqu'un enfant dessine, il y a toujours un adulte qui survient et qui dit « raconte-moi ton dessin » ou bien « qu'est-ce que tu as voulu représenter ?»
Voilà,
quand ce n'est pas plus incisif en disant « est-ce que ceci est un animal ou une maison ? Est-ce que c'est un arbre ou une fleur ?»
Des fois, même en disant « même une maison, mais non, ce n'est pas comme ça. Une maison ballon, ça n'existe pas, par exemple. »
C'est encore un pas de plus, évidemment, quand les parents veulent montrer la bonne manière de faire. Mais tout ça, ce sont des attitudes qui proviennent d'une méconnaissance totale de la nature de la trace de l'enfant. C'est pour ça qu'il est important de faire connaître cette trace, la nature de cette trace. Il faut savoir aussi que s'il n'existe pas de fantaisie, donc pas d'imagination, ce n'est pas des mots en l'air, c'est parce que la trace de l'enfant appartient à un code qui est universel et qui s'appelle la formulation. Et si je dis qu'il faut supprimer le mot « dessin d'enfant », il faut le remplacer par le terme « formulation ». La formulation, c'est une affaire sérieuse. La formulation
commence.
C'est ce que
vous avez découvert, c'est votre découverte, donc depuis maintenant.
Oui, il fallait donner un nom spécifique,
bien sûr,
à une manifestation qui a un caractère particulier. La formulation commence dans l'enfance, dans la petite enfance, et elle évolue selon des critères établis, selon un programme établi. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de fantaisie. C'est un processus qui est absolument programmé et qui fonctionne selon des lois établies. On pourrait dire que la formulation fonctionne comme une langue, sauf qu'elle ne sert pas à communiquer. J'ai toujours un peu d'hésitation à faire cette comparaison, parce qu'une langue est vraiment le moyen de communication idéal. Et la formulation ne sert pas à communiquer, mais elle fonctionne comme une langue, c'est-à-dire oui. Il y a des propres composantes, comme un vocabulaire, et il y a des lois, comme la grammaire. Il faut le savoir. Et ce qui paraît être des bizarreries, ce qui paraît des drôleries, les gens très souvent s'amusent de ce que font les enfants, mais ce ne sont pas du tout des drôleries. Ce sont simplement des habitudes, ce sont des lois qui existent et qui sont les mêmes chez chacun. C'est important de le savoir, ça modifie complètement le regard sur la trace de l'enfant,
bien sûr.
Qui est une trace définitive. Ce n'est pas quelque chose de perfectible. On ne peut pas dire l'enfant fait de l'art inaccompli, de l'art imparfait. Ce n'est pas un stade, ce n'est pas un degré dans un accomplissement. C'est quelque chose qui est total, qui est absolument définitif tel que ça se produit. À tout moment, aussi bien chez le petit enfant que chez la personne plus grande.
Et apparemment dans le monde entier, puisque vous avez de 1967 à 1972 séjourné dans de nombreux pays auprès de populations non scolarisées, et vous avez remarqué exactement la même chose, enfin le même phénomène que chez les enfants.
C'est-à-dire que je n'ai pas constaté que des gens qui vivent ailleurs faisaient la même chose, parce qu'ils ne faisaient rien. C'est-à-dire que j'avais vu... Très tôt, lorsque j'ai été le témoin de cette émission chez l'enfant, j'avais remarqué que ce sont toujours les mêmes éléments qui reviennent chez chacun. Et je m'étais interrogé là-dessus, je m'étais demandé comment il est possible que tous les enfants font les mêmes choses. Et donc la question c'était, est-ce que c'est dû à des faits culturels ou pas ? Est-ce que, autrement dit, est-ce que des enfants qui vivent dans d'autres conditions, dans d'autres climats, qui ont d'autres habitudes, est-ce qu'ils feraient les mêmes choses ou d'autres? Et personne n'avait la réponse à cette question. Il fallait donc que j'aille sur place pour voir. Et ma première idée, c'était de dire, des nomades vivent autrement que nous dans une ville. Est-ce qu'ils vont faire d'autres choses que les enfants de la ville? Et j'ai choisi, bien sûr, des populations qui n'avaient pas l'habitude de dessiner. Donc je n'ai pas recueilli des traces, mais je les ai suscitées.
D'accord.
Donc en allant dans le désert, j'ai apporté une table palette pliante, que j'ai installé là, et voilà des enfants qui n'avaient jamais vu un pinceau, n'avaient jamais tracé quoi que ce soit.
Et les feuilles, vous les avez installées
Par terre. Dans le sable, j'avais pas le mur, parce que dans le désert, il y avait des tentes, mais on ne pouvait pas les utiliser comme parois. Donc les feuilles étaient posées à terre, ça ne fait rien, ils étaient toujours accroupis, donc ils avaient l'habitude. Et donc, ils ont tracé pour la première fois de leur vie, et ces traces étaient tout à fait semblables à celles des enfants, des personnes de notre société. Donc j'ai continué. Après le désert, je suis allé dans la forêt vierge, après je suis allé dans la haute montagne, et j'ai parcouru le monde à la recherche de populations, je dirais, épargnées, celles qui n'avaient pas encore été scolarisées, donc pas encore influencées par nos principes d'apprentissage de la lecture, donc des dessins. Et j'ai pu donc ainsi comparer ce que font les enfants qui appartiennent à des cultures très variées pour en arriver au résultat que les éléments sont exactement semblables. Donc il s'agit d'un code universel. Ce code, la formulation peut se définir ainsi. Il est structuré, il fonctionne, il n'y a pas de hasard, il fonctionne selon des lois qui sont comparables aux lois de la biologie ou de la botanique ou de la zoologie, par exemple. C'est un code autonome, ce n'est pas quelque chose qui est comparable à autre chose, et c'est universel, absolument le même chez tous les êtres. Ça, c'est important à dire, bien sûr.
Oui, et donc il faut garder, alors moi ce que j'ai retenu aussi en lisant votre livre, c'est que les parents, ne jetez pas les premiers dessins de vos enfants.
Oui.
Il faut les garder.
Oui, en tout cas, il faut être très attentif.
Attentif, voilà, bien et sûr. Que même si pour les parents ça ne représente rien, c'est important de laisser l'enfant peindre ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de peindre en fait.
Oui, parce qu'on part de l'idée que dessiner, c'est représenter quelque chose. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Évidemment, l'enfant a le désir de représenter des choses. Il crée un monde, il se crée un monde.
Son monde à lui.
Un monde qui lui est propre, qui correspond à ses préoccupations. C'est vrai, mais ça, c'est un moment dans son existence. C'est un grand moment, c'est une grande période. Mais il y a une période préliminaire de la petite enfance où l'enfant ne représente rien. Et le drame, c'est que lorsqu'un petit enfant fait des figures qui s'imposent à lui, simplement des figures qu'il trace. Il y a toujours un adulte pour lui demander qu'est-ce que ça représente. Et ça donne à l'enfant l'idée que ça doit représenter quelque chose. Or, ça ne doit rien représenter.
Ça l'oblige à réfléchir dans un sens où au départ, il n'a pas forcément, il n'est pas forcément dans ce sens-là.
Un processus intellectuel, raisonné, alors que ça ne doit pas l'être. Et dès l'instant qu'on plaque une idée sur la trace de l'enfant, eh bien, on la dénature. C'est pour ça qu'il est très important de connaître l'existence et la nature de la formulation. Et si possible, de savoir comment elle fonctionne. C'est pour ça, bien sûr, que j'écris. C'est pour faire connaître à la fois c'est l'important de la trace et son caractère.
Oui, c'est votre 14e livre, donc ça suppose que vous en avez écrit 13 avant. Donc, genre, c'est
écrit,
énorme,
oui,
quand même.
Écrit, c'est, dès que j'ai découvert quelque chose, j'avais hâte de le faire savoir à d'autres, hein, parce qu'on a envie de partager des choses
bien
aussi
sûr.
Importantes.
Et ils sont publiés en plus dans de nombreuses langues, donc ça fait profiter beaucoup d'autres pays et d'autres personnes de votre découverte.
Oui, mon désir est que ça se répande. Quand on découvre une chose aussi originale et essentielle, on veut que ce soit partagé par beaucoup de gens. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une urgence à faire connaître la formulation parce qu'il faut véritablement la sauver. Il faut la sauver comme on sauve, je ne sais pas, l'atmosphère, comme on sauve les nappes phréatiques, comme on sauve les espèces animales ou botaniques qui sont en voie de disparition parce qu'on les a maltraitées. Donc il faut aussi sauver la formulation aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est un combat que je livre parce que c'est un combat contre l'ignorance. Il faut vraiment savoir ce que c'est, il faut savoir combien c'est vital pour l'enfant. Et il faut absolument faire savoir que ça existe.
Il faudrait presque que les enseignants, dans leur formation à l'école normale, soient informés de...
Oui.
Enfin, vous le faites d'ailleurs, vous faites des conférences dans les écoles normales, dans les universités.
Oui. Je fais des conférences pour le grand public, donc il y vient aussi des gens qui sont dans l'école. Et je suis invité aussi dans les écoles normales, dans les lieux où l'on forme des enseignants. Oui, c'est essentiel qu'ils le sachent.
Et vous êtes donc praticien, vous êtes trouvé donc le terme de praticien d'éducation créatrice.
Mais il fallait donner un nom à cette fonction. C'est une fonction qui n'existait pas. Lorsque j'ai commencé à faire peindre les enfants, on m'a demandé ce que je suis. Mais il fallait inventer une appellation.
Un terme, oui, voilà, une appellation.
Oui, bien sûr. Lorsqu'on me demande ce que je fais, je dis « je suis un servant ». Je suis un servant du jeu de peindre.
Voilà,
évidemment, c'est difficile.
Vous déplacez les punaises, les feuilles, vous amenez les tabourets dans le clos-lieu.
Oui, je fais tout ce qui rend l'activité confortable à chacun, qui le rend facile à chacun.
Pour qu'il ne soit pas distrait, pour que l'enfant ne soit pas distrait par autre chose que peindre ce qu'il a envie de peindre.
Se concentrer sur l'émission de sa trace, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle.
Et justement, je me tourne vers Dominique Rosis, qui est à Toulouse, qui est une praticienne aussi d'éducation créatrice, comme M. Arnaud Stern, et qui évolue donc à l'association Couleur de Soi, qui est avenue d'Italie. Dominique.
Oui, depuis septembre 2004, on a ouvert un atelier sur Rangueil et donc les gens peuvent venir pratiquer aussi à Toulouse comme à Paris au Clos-Lieu. Donc les gens, petits ou grands, comme l'a précisé M. Arnaud Stern, peuvent découvrir cette façon de peindre.
Donc c'est 17 avenue d'Italie, c'est 31-400, c'est à Rangueil donc. Et vous avez des jours de...
Actuellement, il y a deux possibilités. Le mercredi de 15h à 16h30 et le jeudi de 17h à 18h30.
D'accord. Et donc c'est ouvert à tous les enfants et à tous les adultes qui ont envie donc d'exprimer... ce qu'ils veulent à travers donc
cette table palette. Travers,
voilà, donc vous avez reproduit le même, voilà, le même lieu que le Clos-Lieu à Paris. Donc
oui, avec il y avait moins grande... de traces, parce que je n'ai pas autant de pratiques que M. Arnaud Stern derrière moi, mais j'espère bah, bien
plus
que
récent,
ce,
voilà, voilà, en 2004, ce lieu faut encore un peu de...
vivra longtemps et pourra apporter effectivement ce plaisir et ce bien-être aux gens qui viendront dans ce lieu.
Bien sûr. Et je vais peut-être dire le numéro de téléphone pour si les gens veulent se prendre des renseignements ou vous contacter. Donc Dominique Rosis, association Couleur de Soie, 17 avenue d'Italie, 31 400 Toulouse, et c'est le 05 61 53 97 12. Et je vais vous rappeler également donc le titre du livre de Monsieur Stern, donc qui s'appelle Heureux comme un enfant qui peint, aux éditions du Rocher, avec une de très belles photos donc de Peter Lindbergh. Et on peut rajouter aussi que Heureux comme un enfant qui peint, donc il y a quand même des mots clés dans toute votre dans la formule. Bon, il y a la formulation, il y a la sérénité, il y a donc heureux, donc le bonheur, enfin c'est l'épanouissement, oui, c'est la nécessité organique, il y a,
vrai,
ça
oui.
revient aussi Il y a pas mal de mots-clés dans cet ouvrage qui peuvent donc faire connaître aux auditeurs et à nos auditrices un peu ce que vous voulez faire passer comme message.
C'est ça, oui. Lorsqu'on me demande ce que j'apporte aux enfants, enfin aux personnes qui viennent dans le Clos-Lieu, je dis du plaisir.
Alors,
et ça, c'est
probablement
le mot-clé qu'il faut souligner. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas peu de choses que de trouver du plaisir. C'est très important dans l'existence.
Bien sûr, dans la société actuelle, c'est des fois assez difficile d'en trouver.
C'est ça. Moi, je souhaite à beaucoup de gens d'avoir ce plaisir-là. C'est un plaisir pur, un plaisir entier.
Innocent, qui part de
Un
de
plaisir sans spéculation. Et évidemment, c'est ça, le jeu. Qu'est-ce que c'est que jouer? C'est vivre un moment de bonheur sans spéculation.
Et sans avoir de limites, sans avoir de...
Voilà, c'est ça. C'est de ne pas produire quelque chose. Dès qu'on produit, on dépend de l'accueil de son produit. Et là, il n'y a pas ce souci de ce que ça devient, c'est seulement quelque chose qui est en train d'exister. C'est le moment vécu qui est important.
Donc vous n'allez jamais à des expositions de peinture, M. Stern?
Moi-même?
Oui.
Ah, si, moi, je ne rejette pas l'art, je suis un amateur d'art, enfin, je suis très sensible à la création artistique, pourquoi pas? Il ne faut pas confondre les choses. Mm-hmm. Il y a l'art d'une part, il y a la formulation d'autre part, et c'est tout à fait compatible.
D'accord.
L'un n'empêche pas l'autre, mais il ne faut pas les mélanger. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on les mélange et qu'on fait de l'éducation artistique, par exemple. Là, non. Là, je dois dire que ça va au détriment de la spontanéité.
Voilà, oui, le mot-clé aussi, voilà, c'est spontanéité, quoi.
Ah oui, là, ça reste, c'est très important, au vrai sens du terme, quelque chose qui n'est pas induit par l'intention, mais qui s'impose à la personne. C'est une nécessité qui est en chacun, une nécessité qui est, je dirais, qui est muette, qui est latente en chacun, et qu'il est facile d'éveiller, il suffit de créer les conditions propices, et ça surgit. Mais il faut ces conditions-là. Et donc, le Clos-Lieu les propose à chacun. Il n'y a pas d'exception. Et ça supprime aussi cette notion de don, les êtres doués, ou les êtres qui sont handicapés, ou qui seraient moins aptes à quelque chose. Ça n'existe pas. C'est une nécessité qui est en chacun, et c'est une capacité de chacun.
D'accord. Et le Clos-Lieu, donc, on peut vous voir donc dans le Clos-Lieu à Paris, dans le 8e arrondissement.
On peut aussi prendre contact avec moi à Paris, bien sûr.
Voilà,
c'est
vous voulez donner votre numéro de téléphone, enfin le numéro où on peut vous joindre?
Oui, je vous donne mon numéro de portable, 06 70 72 36 52.
Voilà. Si les personnes n'ont pas eu le temps de noter les numéros donc de Monsieur Arnaud Stern ou de Dominique Rosis à l'association Couleur de Soie, vous appelez au 05 61 80 40 40 à la radio Occitanie et je me ferai un plaisir de vous communiquer ces numéros si vous n'avez pas eu le temps de les noter, bien entendu. Et pour terminer, donc le Clos-Lieu, donc on peut donc en vous appelant, on peut s'y rendre si les gens, si des personnes veulent des renseignements.
Oui, bien sûr.
Parce que vous formez, il faut quand même dire aussi que vous formez des praticiens d'éducation créatrice, comme Dominique Rosis est une praticienne.
Oui,
donc,
absolument.
Si des adultes veulent,
celui qui a envie de savoir ce qu'est la formulation, ce qu'est la pratique dans le Clos-Lieu, oui, c'est fait pour ça.
C'est fait
ce sont
ça
des
aussi.
Stages qui durent 10 jours. C'est pas une longue période, mais c'est très concentré. Et il y aura un stage en juillet, par exemple.
Ah, d'accord. Donc en juillet, donc, un stage de 10 jours est prévu.
Pour un stage de juillet.
D'accord. D'accord. Donc, n'hésitez pas à m'appeler à la radio pour avoir les numéros si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Donc, nous sommes, au terme de cette émission. Merci Arnaud Stern d'être venu. J'ai vraiment été très heureuse et très honorée de vous recevoir. Et merci à Dominique Rosis. Et puis, à la semaine prochaine. Il est 10h, vous écoutez Radio Occitanie, je vous laisse en compagnie de Bénédicte et de son flash culturel.
Occitanie de Zours.